France Culture.
Bonjour.
Bonjour, excusez-moi d'avoir tant d'avance.
Est-ce que c'était ok pour vous? Enfin, vous ne vous êtes pas ennuyé?
Pas du tout.
Ouais, voilà.
Pas du tout.
C'est moi qui dois m'excuser d'arriver.
France Culture.
Non, vous n'êtes
vous
pas
allez
en
bien
retard, tout va bien.
Le beau t'es, club.
T'es bien, toi, t'as eu le temps de faire des milliards d'essais?
Pas vraiment, parce que Madame Nothomb était très sage.
J'étais très sage.
Vous avez fait, vous avez médité.
Dans la bibliothèque d'Amélie Nothomb.
Quand je suis arrivée.
Mais je ne possède pas de téléphone portable.
Voilà,
et je ne sais pas comment ça marche.
Et tout va bien, tout
alors,
à l'heure.
Alors, je vous laisse juger.
Marie Richeux.
Je suis sidérée quand je rencontre des gens qui ne sont pas en train de lire. Moi, je suis toujours en train de lire, sinon je suis orpheline, je suis en deuil. Si je n'avais pas lu pendant mon adolescence, je serais morte ou j'aurais mal tourné. Voilà dans un entretien la lecture portée à la hauteur d'une question de vie ou de mort, exactement du reste comme l'écriture, dont vous avez toujours dit à Amélie Nothomb que le combat quotidien qu'elle vous permet de mener aux aurores, et ce, quel que soit le jour. Vous racontez dans votre dernier roman que vous apprenez la mort de votre mère alors qu'il vous reste l'une de ces heures quotidiennes d'écriture à accomplir. Alors pendant 60 minutes, à la fois dans et complètement en dehors de vous-même, vous continuez d'écrire avant de permettre à cette inconnue douleur de vous terrasser. Toute la recherche de Proust, mais aussi toute la comédie humaine d'Honoré de Balzac, mais aussi encore et toujours la princesse de Clèves de Madame de Lafayette, qui paraît-il ne quitte pas votre table de chevet, sont des expériences de lecture que vous avez racontées et qui ont marqué votre parcours. Mais vous avez choisi en guise de déballage de bibliothèque aujourd'hui, pour le book club, l'évocation de Rilke, de Rachilde, de Mishima ou encore Cocteau. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation, Amélie Nothomb.
Merci à vous.
Bienvenue chez vous. On est donc dans votre bibliothèque, virtuellement. Je le disais, ce dernier livre s'appelle Tant mieux. Il a paru comme les autres aux éditions Albin Michel. À la fin, en effet, il y a vous en train d'écrire. Et d'ailleurs, vous êtes souvent plus loquace sur vous en train d'écrire que vous en train de lire. Néanmoins, vous dites souvent que la lecture occupe une place très importante dans votre vie. Si on essaye de se souvenir les débuts de cette vie de lectrice, et si on se souvient que vous apprenez à parler japonais avant que d'apprendre à parler français, ça fait quoi comme début de vie de lectrice ?
Je m'en souviens très précisément. J'ai appris à lire seule dans Tintin. C'était Tintin en Amérique. Il y a le moment où la vache sort de l'usine sous forme de saucisse par un robinet. Et à ce moment-là, je parviens à lire. Donc j'identifie le processus de la lecture à cette vache qui sort de l'usine par un robinet sous forme de saucisse.
Ok, c'est pas mal comme début. Vous êtes à ce moment-là où? Parce que vous avez beaucoup bougé pendant votre enfance.
Je suis au Japon et je n'ai pas encore 3 ans.
D'accord.
Donc, c'est
donc vous lisez très tôt.
J'apprends très tôt à lire et c'est le commencement d'une très très longue carrière de lectrice. Je suis écrivain parce que je suis lectrice. Mmh. Je suis lectrice depuis beaucoup plus longtemps que je suis écrivain.
Est-ce qu'il y a des livres dans ces différents endroits où vous habitez, Amélie Nothomb ?
Il y a énormément de livres à la maison. Mon père transporte partout une gigantesque bibliothèque. Il appartient à une famille très littéraire. J'ai toujours vu mes parents lire. Et donc lire me paraît très vite un comportement aussi ordinaire que manger ou prendre un bain.
Quand vous dites qu'il appartient à une famille littéraire, c'est-à-dire ?
Eh bien, il appartient à une famille politique belge. Son grand-père était un poète connu en Belgique, j'ai envie de dire, hélas, parce que je ne partage pas du tout cette admiration. Disons que le nom Nothomb en Belgique est associé à la politique et à une certaine forme de littérature.
Et vous dites beaucoup voir votre père lire. Est-ce qu'il en est de même pour votre mère ?
Aussi, mais moins. Mon père, c'est phénoménal. Non seulement il travaille comme un fou, non seulement il chante l'opéra médiéval japonais, mais en plus, quand il rentre de ses innombrables obligations, il lit jusqu'au minimum 2 heures du matin. Donc il dort extrêmement peu et lit autant qu'il mange, c'est-à-dire beaucoup.
Il dit quoi à ce moment-là? Vous le voyez lire quoi?
Je le vois lire absolument tout, depuis Marguerite Yourcenar jusqu'au classique japonais, qu'il se met même à lire en japonais, puisque mon père a très vite appris cette langue infiniment mieux que je ne le parlerai jamais.
Est-ce que vous avez lu en japonais aussi ?
Non, car j'ai quitté le Japon à l'âge de 5 ans et que je suis retournée à l'âge de 21 ans. Donc j'ai loupé les précieuses années où on apprend à lire. Notez que mon père, lui, est arrivé au Japon à 30 ans, mais lui, c'est un phénomène. Et
il a réussi à
et se lancer dans la lecture. À lire. Oui.
Et vous n'avez jamais essayé, une fois que vous retrouvez le Japon dans la vingtaine, cette retrouvaille que vous racontez d'ailleurs dans un roman ?
J'ai essayé, et c'est absolument fascinant, mais je ne suis jamais allée assez loin pour pouvoir vraiment lire le japonais. Par ailleurs, le malheur de l'écriture japonaise, qui est d'une beauté folle, c'est que si vous ne la pratiquez pas suffisamment assidûment, vous l'oubliez à la vitesse grand V.
Vous dites que vous avez une longue carrière de lectrice, qu'elle est plus longue que celle d'écrivaine, Amélie Nothomb. Elle ressemble à quoi? Donc, dans l'enfance, la bande dessinée Tintin et oui. cette épiphanie de lecture avec une vache transformée en saucisse. Et ensuite, est-ce que vous piochez dans cette bibliothèque paternelle?
Alors, pas tout de suite. Bon, à part les bandes dessinées, le premier livre qui attire très fort mon attention, c'est la Bible, parce que mes parents en parlent beaucoup. J'appartiens à une famille extrêmement catholique. Et mes parents venaient de perdre la foi. On les avait éduqués dans l'idée que, en dehors de la religion catholique, point de salut. Mmh. Et puis ils débarquent au Japon, un pays qui va très bien et qui ne doit, pour ainsi dire, rien au catholicisme. Mes parents ont eu une réaction qui peut paraître exagérée. Ils décident qu'ils vont oublier cette religion parce qu'on s'est moqué d'eux.
Mais c'est presque une perte de foi assez pragmatique, quasi politique,
oui,
quoi.
Quasi politique. Ouais. Bon, je me suis aperçue par la suite que chez mon père, cette perte de foi était une pure déclaration d'intention, parce qu'en fait, il avait absolument pas perdu la foi. Il faisait semblant de ne pas croire, mais je le voyais prier en cachette et faire toutes sortes de choses comme ça.
Et parler de la Bible, du coup.
Du coup, les parents parlaient énormément de la Bible, mais plutôt pour en dire du mal. Et c'est ça qui a attiré mon attention, ce qui fait que très vite, j'ai commencé à lire la Bible.
Et alors, vers quel âge vous lisez la Bible et qu'est-ce qui vous plaît?
4, 5, 6 ans.
Mais c'est très petit, ça, quand
c'est
même.
C'est très petit, ouais. et je dois dire que l'Ancien Testament, à part le tout début, que je trouve magique, me passe pas mal au-dessus du crâne.
Oui, mais n'empêche que vous y êtes, et vous tournez les pages.
Et puis, j'arrive au Nouveau Testament, et là, il y a le personnage de Jésus. Et ça, il devient mon super-héros.
Jusqu'à lui consacrer un livre.
Consacrer un livre bien plus tard.
Qu'est-ce qui vous plaît? Est-ce qu'il y a quelque chose de la langue, de la manière dont ces histoires sont racontées?
Vous savez, je la lis en français, la Bible, donc de toute façon, il me manque quelque chose. Mm-hmm. Mais le récit n'en est pas moins tout à fait extraordinaire. À la fois lacunaire et contenant des paroles extraordinaires. Tant celles de Yahvé que celles des prophètes, et surtout celles de Jésus, sont d'une éloquence absolument fantastique.
Et vous y revenez, ou c'est une petite crise religieuse qui vous suit?
Ça ne m'a jamais quitté.
Oui, vous lisez la Bible.
Ça ne m'a jamais quitté. Ouais. Donc ça a beaucoup compté pour moi.
Mmh. Est-ce que si on avance un petit peu dans votre âge et dans votre parcours, on vous trouve avec d'autres livres dans la main?
Oui, parce que je lis aussi les livres pour enfants. Un de mes grands livres d'enfants, qui fait partie de la collection du Père Castor, c'est Frou le lièvre. L'histoire d'un lièvre qui fuit la chasse et puis qui vit une grande histoire d'amour avec une certaine capucine qui est une hase et qui lui compose une salade et vole des carottes pour elle. Enfin, ça a été pour vous dire que j'étais aussi
un lièvre chevaleresque.
Voilà, j'étais aussi une petite fille parfaitement normale. Je pouvais avoir des lectures de pur enchantement. Et puis à l'âge de 9 ans,
vous avez quitté le Japon.
J'ai quitté le Japon. Là, j'ai même quitté la Chine. Mmh. Et là, on arrive à New York et je lis Les Misérables. Donc, à la base, je pense que je voulais lire Victor Hugo pour me rendre intéressante, mais ce n'est pas du tout ce qui s'est produit. En fait, j'ai été captivée. Et Les Misérables sont un des grands chocs de mon enfance.
Vous vous souvenez par quoi vous êtes captivée à 9 ans à New York en lisant Les Misérables?
Oh, surtout par Cosette, évidemment. Cosette, la petite fille martyre, une très très grande réussite. Donc, je ne sais pas si je faisais une lecture sadomasochiste des Misérables, mais le personnage de Cosette me captivait. J'ai relu entièrement Les Misérables pendant le confinement, et c'est un des plus grands chefs-d'œuvre de tous les temps. Sauf que là, la figure qui m'avait captivée, c'était Javert. Javert est évidemment le plus grand personnage des Misérables.
Est-ce que, par exemple, le fait que vous passiez ce temps-là de la préadolescence à New York vous rend curieuse de la langue anglaise? Est-ce que vous vous mettez à lire en anglais ou pas spécialement?
Pas spécialement. On devait parler anglais à l'école, mais ça peut avoir l'air bizarre, mais à part le japonais, je n'ai pas eu de grande passion linguistique en dehors du français. Le français et le japonais sont les deux grands coups de foudre linguistiques de ma vie, hormis bien sûr le latin et le grec que j'approfondis terriblement à l'adolescence. J'aime beaucoup l'anglais, mais j'ai finalement assez rarement lu en anglais.
Comment ça se passe, un coup de foudre linguistique? Ça veut dire quoi exactement? Il se passe quoi pour le cœur et le corps, Amélie Nothomb, quand on tombe amoureuse d'une langue?
je ne peux pas en parler consciemment parce que mes deux coups de foudre linguistiques, je les ai vécus avant l'apparition de ma conscience. En ayant d'ailleurs assez de mal à les différencier a priori. Finalement, ce qui m'a permis de les différencier...
Les deux langues voulaient dire jumelles.
Les deux langues, le français et le japonais.
Sont collées.
Sont collées et c'est en m'apercevant que je me sers d'une moitié de la langue avec la nounou et de l'autre moitié de la langue avec ma mère que je parviens peu à peu à les différencier. Donc finalement, mon premier et seul vrai... Non, il y en a eu deux, le grec et le latin. Mais ça a commencé par le latin à 11 ans. Ça, c'était un coup de foudre linguistique, parce que c'était conscient.
Plus conscient, ouais.
Et je dois dire, choisi. J'avais décidé que j'allais tomber amoureuse du latin et du grec.
En l'honneur de quoi ?
En l'honneur du fait que je sentais que ce serait très, très, très important pour moi. Je n'ai jamais eu d'aussi bonne idée de toute ma vie. Rien ne m'a été aussi concrètement utile dans la vie que mon apprentissage forcené du latin et du grec.
C'est-à-dire essayer de convaincre quelques élèves qui nous écoutent.
Eh bien, si je possède la tuyauterie de la langue que j'écris, c'est vraiment grâce au latin et au grec. Peut-être que une seule de ces deux langues aurait peut-être pu suffire, mais tant qu'à faire, on n'en fait jamais trop. Rien n'est plus essentiel pour un écrivain que de maîtriser la tuyauterie de sa langue, de se sentir parfaitement à l'aise dans sa syntaxe. Et pour ça, le latin et le grec, c'est vraiment la meilleure formation.
Finalement, vous avez l'air de raconter la découverte même qu'une langue existe dans la toute petite enfance, Amélie Nothomb, par la conscience que vous naviguez entre deux.
Oui.
Qu'il y a une forme de schisme, de dissociation entre une langue parlée dans le soin de la nourrice et une langue parlée dans la relation à la mère. Or, cette idée de la dualité, elle est très présente dans Tant mieux. Il y a beaucoup de personnages qui sont doubles, qui vous font, en tout cas, qui font souffrir la narratrice par leur dualité, à la fois qui la font souffrir, mais la fascinent aussi.
Oui.
Est-ce que vous avez encore l'impression d'habiter un entre-deux langues aujourd'hui, même des années plus tard?
C'est beaucoup moins clair, mais je sais que j'ai une langue fantôme. Ma langue fantôme, c'est le japonais.
Elle est toujours là.
Elle est toujours là. Il suffit que je retourne au Japon pour que je sente le japonais remonter comme une marée, qui le restant du temps est basse et pour ainsi dire oubliée, mais pas complètement. Il en reste vraiment quelque chose. Et là, je remercie infiniment ma mère, parce que quand j'étais toute petite, j'aimais ma nounou autant que ma mère. J'aimais passionnément ma mère, mais j'aimais ma nounou tout autant. Et ma mère l'a compris et un jour elle m'a dit « Tu sais, je sais que tu aimes Nishio-san autant que moi et c'est très bien, tu as le droit. » Elle m'a autorisé à avoir cette espèce de double vie aussi bien linguistique que sentimentale. Merci à ma mère de m'avoir déculpabilisée dans ma double vie amoureuse.
Oui, mais c'est très très beau la manière dont vous décrivez aussi comme se dépose cette langue de cette nounou dans un corps, forcément, d'un tout petit enfant dont on prend soin.
Oui.
Mais ça veut dire qu'elle n'est pas parlée, mais qu'elle est parlée peut-être par le corps, d'une certaine manière, par le souvenir du corps, Amélie Nothomb.
Absolument, puisque chaque fois que j'ai affaire à la langue japonaise et chaque fois que je retourne au Japon, je me sens réactivée. Il y a toutes sortes de bombardements de mots qui me font remonter à la surface.
C'est fou quand même.
Oui, c'est fou.
Alors, si on continue, donc on vous a laissé 10-11 ans, Les Misérables à New York.
Les Misérables, voilà.
Et si on poursuit ?
On poursuit. J'arrive à l'âge de 11 ans, j'arrive au Bangladesh. Là, grand contraste encore. Et au Bangladesh, il n'y a pas d'école. Je suis des cours par correspondance avec la métropole. En dehors de ma sœur, je n'ai aucune compagnie de presque mon âge. Donc, commence une carrière acharnée de lectrice. La lecture qui, jusqu'alors, n'était que presque qu'un divertissement.
Mais en réaction à la solitude, si je vous
En réaction à la solitude. Ouais. Là, je me mets vraiment à bouffer du livre.
Et vous en avez sous la main parce que la bibliothèque vous a suivi, la bibliothèque de votre père.
La bibliothèque de mon père m'a toujours suivi. Donc, je lis Le Comte de Monte Cristo et puis je lis Stendhal. Je découvre Stendhal. Tout ça, c'est une succession de coups de foudre. Je lis Jack London, je lis Monterland. Je sais que c'est très bizarre, mais je découvre Monterland à 14 ans en lisant les jeunes filles. C'est-à-dire juste à un âge où je suis en train de devenir une jeune fille. Et ça m'inspire une folle paranoïa de la féminité. Je me dis, mon Dieu, mais qu'est-ce qui va m'arriver? C'est épouvantable. Comment faire? Comment ne pas devenir ce monstre? Comment éviter la maladie de la féminité? Beaucoup plus tard, à 18 ans, je découvre Marguerite Yourcenar, que je considère comme l'antidote de Monterland, puisque Yourcenar me montre une autre voie de la féminité. On peut être une femme et être Marguerite Yourcenar. C'est magique.
Et ça va mieux, du coup.
Et du coup, ça va beaucoup mieux.
Je citais cet extrait d'entretien où vous dites « Si j'avais pas lu à l'adolescence, j'aurais mal tourné ou je serais même morte ».
Oui.
Je suis sûre que c'est pas une façon de parler.
C'est pas une façon de parler.
Ça veut dire que vous hissez véritablement la lecture à ces endroits-là de vitalité ou de mort, de questions qui sont des questions véritablement existentielles. Oui. Est-ce que, on l'a entendu, vous dites « Je commence à bouffer du livre pour répondre à la solitude soudaine de cette nouvelle vie au Bangladesh. »
Oui.
Mais si vous deviez expliquer à des gens qui ne voient pas de quoi vous parlez lorsque vous dites que la lecture peut devenir ça, peut devenir une question de vie ou de mort, est-ce que vous pourriez préciser cette idée-là ?
On ne peut pas grandir en dehors du réel. Au Bangladesh, je me sens en dehors du réel. C'est-à-dire que si je sors de la maison, j'arrive tout de suite dans la mort, la faim, la lèpre. Du coup, je retourne dans la maison parce que je veux... Je ne peux pas supporter de voir ça. Dans la maison, il n'y a pas de réalité. Heureusement, il y a les livres. Les livres deviennent le réel.
Contrairement à ce qu'on dit d'habitude ou à ce qu'on peut souvent entendre, à savoir, c'était un échappatoire, c'était
mais
un
horizon. Mais comment peut-on dire ça
quand vous, c'était là où il y avait le réel.
C'est là qu'était le réel. Quand j'entends les gens parler de lecture-évasion, je n'ai jamais compris ce que ça voulait dire.
C'est là où il y a le monde.
Là où il y a le monde et j'ai besoin du monde et c'est là que je le trouve. En plus, très vite, je deviens très anorexique. Donc, bouffer du livre devient carrément plus du tout une métaphore. Ça devient...
Ça remplit quelque chose.
Ça remplit ce que je... Et encore aujourd'hui, je ne suis plus du tout anorexique. Mais... quand je n'ai plus rien à lire chez moi, ça me paraît plus inquiétant que si j'ai rien à manger. J'ai besoin d'avoir de la nourriture, bien sûr, mais j'ai besoin d'avoir des livres et d'avoir beaucoup de livres, de savoir que j'ai encore beaucoup à manger.
Est-ce qu'il y a beaucoup de livres chez vous ?
Il y a énormément de livres chez moi. Malheureusement, très désordonnés.
C'est-à-dire désordonnés, faites-nous rêver ?
Eh bien, autant à Bruxelles, j'habite un appartement de famille avec une belle bibliothèque bien rangée, autant à Paris... Mes livres sont disposés en tas. C'est une espèce d'amoncellement. Heureusement, l'appartement est plutôt grand. Mais dès qu'un livre arrive dans cet amoncellement, il devient très difficile de le retrouver.
Mais vous le retrouvez, non ?
Ça peut arriver suite à des expériences de spéléologie. Mais il arrive encore beaucoup plus souvent que j'achète les livres en double parce que j'ai pas le courage. Heureusement, en livre de poche, c'est pas très grave d'acheter un livre en double.
Je faisais mention, puisque vous le racontez souvent, Amélie Nothomb, ces heures matinales d'écriture, cette astreinte, ce bonheur, ce combat. Quelle place prend la lecture ? Est-ce que ce 4 à 8 terminé ou ce 5 à 8 terminé, il y a de la place pour lire ?
Ce 4 à 8 terminé, la lecture, c'est pas pour tout de suite. 5 jours par semaine, les jours ouvrables, je me rends chez mon éditeur et commence les heures de ma journée dévolues à la correspondance. Ça prend beaucoup de temps, en gros 5 heures par jour, à lire mon courrier et à y répondre. Je pourrais être correspondante épistolaire de métier, tellement
j'y consacre de temps. D'une certaine manière.
D'une certaine façon, oui. Et la lecture ne peut commencer que quand j'ai fini toutes ces écritures. Donc en gros, je n'ai droit à l'extraordinaire récompense de la lecture que quand j'ai écrit mes 9 heures par jour.
Et vous la vivez comme telle aujourd'hui ?
Oh oui, c'est vraiment la récompense.
Mais quoi qu'il arrive sous vos yeux ? Non, vous choisissez tout de même.
Bien sûr que je choisis. Parfois, je dois lire un livre, mais c'est somme toute assez rare. Et s'il faut lire un livre, je suis capable de le lire. Bon, je le dis, je ne sais pas si je dois en être honteuse, mais c'est comme ça. Si je dois lire un livre qui me barbe, par exemple, comme ça doit arriver parfois... Je maîtrise très bien
la lecture contrebarbante.
La lecture extrêmement rapide qui fait que je peux lire un livre de 900 pages en 4 heures.
On va se parler juste après dans le couloir pour que vous me donniez 2-3 tips. En tout cas, vous le vivez comme quelque chose qui est régénérant, qui est nourrissant.
Oh oui,
qui
c'est de la nourriture. C'est de la nourriture. Et quand je peux le choisir et quand je tombe bien, et ça se produit très 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 souvent, c'est le régal. C'est le festin. C'est un très grand moment.
On va entrer dans votre bibliothèque grâce à plusieurs choses. Oui, on ne dit rien de plus. Donc, ces deux bibliothèques, Bruxelles, très bien rangée, Paris, une grotte, voilà. Est-ce qu'on dit d'autres choses ? Il y a beaucoup de quantités, pas beaucoup de classements.
Oui.
Est-ce qu'il y a des choses notables dans cette bibliothèque, Amélie Nothomb ?
Je ne crois pas qu'il y ait des choses si notables que ça. Si c'était une chose qui choque beaucoup les gens, ça me fait rire. Je n'ai pas téléphone portable, et je ne sais pas comment ça marche. Je n'ai pas d'ordinateur, et je ne sais pas comment ça marche. Mais il n'y a pas longtemps, j'ai eu des terribles problèmes d'épaule qui ont fait que je n'étais même plus capable de tourner les pages d'un livre.
Je connais.
Ce qui fait que on m'a procuré une liseuse avec beaucoup de choses dessus et que pendant pas mal de temps, j'ai lu sur liseuse.
Ça vous a plu ?
J'ai beaucoup aimé. Et alors, je ris des cris d'orfraie que ça suscite chez des soi-disant puristes qui passent leur vie sur les réseaux, etc. Je veux dire, tout ce que j'ai prouvé, c'est que lire était pour moi une question de vie ou de mort, et que oui, si je ne pouvais pas le faire autrement qu'en liseuse, évidemment que je le faisais en liseuse. Et non, très sincèrement, je n'ai pas eu l'impression de perdre énormément de plaisir. Tous ces gens qui disent « Ah, moi, il me faut absolument
tourner la page
et l'odeur du livre et tout » sont généralement des gens qui lisent extrêmement peu. Moi qui suis une énorme bouffeuse de livres, je peux vous assurer que si je continue à énormément aimer les vrais livres, je n'ai absolument aucun dédain de la liseuse.
Il paraît que vous aimez ça.
France Culture, le Book Club, dans la bibliothèque d'Amélie Nothomb, Marie Richeux.
Et c'est le deuxième temps de ce déballage de bibliothèque avec vous, Amélie Nothomb. On vous a demandé, comme à tous nos invités, de choisir 5 livres, 5 extraits de livres. Est-ce que c'était facile ? Est-ce que c'était évident ? Est-ce que
pas
c'était rapide ?
Pas du tout.
Ni évident, ni facile,
pas
ni
pas du tout. Et finalement, ce qui a favorisé mon choix, c'est le bordel.
Ok.
Finalement, c'est ceux que je parvenais à attraper.
J'espère que tout ne s'est pas complètement écroulé.
Mais bon, comme c'est le gigantesque tas ne contient que de très bons livres,
okay.
Le vous risque n'était pas grand de parfait. Me tromper.
Est-ce que ça vous va si on commence par Cocteau ?
Ça me va très bien.
Ça vous va. Vous avez choisi de lire pour nous « La difficulté d'être ». C'est un texte de 1947 de Jean Cocteau. Jean Cocteau a une place particulière dans votre vie de lectrice ?
Je l'ai découvert à 12 ans en lisant...
Tout ça me paraît tellement tôt, Amélie Nothomb. C'est fou, non ?
Je ne trouve pas.
Pas fort, d'accord.
Je ne trouve pas.
Ouais, non.
C'est l'âge où j'ai découvert Colette. Okay. Colette et Cocteau, de les découvrir en même temps, ça a beaucoup de sens.
Ouais.
Et bon, Les enfants terribles, ça se lit très très
bien.
Oui,
vous avez raison. Ouais, vous avez raison.
Colette, ça se lit très très bien.
Absolument.
Tout le temps aussi.
Absolument. Ok, donc fausse vision de ma part. La difficulté d'être. Vous le rencontrez à ce moment-là aussi ?
Non, la difficulté d'être, c'est
quand même.
C'est beaucoup plus difficile,
voilà.
comme son titre l'indique. Mais c'est un coup de foudre extraordinaire. Les enfants terribles à 12 ans. Oh, c'est magnifique, la relation entre ce frère et cette sœur, l'histoire d'amour, la façon de ne pas quitter la chambre, c'est grandiose.
On vous écoute dans un extrait et on le commente ensuite. On écoute donc un extrait de La difficulté d'être.
La langue française est difficile, elle répugne à certaines douceurs. C'est ce que Gide exprime à merveille en disant qu'elle est un piano sans pédales. On ne peut en noyer les accords, elle fonctionne à sec, sa musique s'adresse plus à l'âme qu'à l'oreille. Ce que vous estimez musical chez les classiques n'est souvent qu'un ornement de l'époque. Les grands n'y échappent pas, bien qu'ils le surmontent. On en constate l'artifice chez les petits, Célimène et Alceste nous paraissent parler la même langue. Il est probable que les langues les plus disparates que nous écrivons à notre époque se confondent dans une autre. Le style en deviendra presque analogue. Il n'en surgira plus la différence de ce qu'elles expriment et que leur exactitude à l'exprimer. Outre que les mots signifient, ils jouissent d'une vertu magique, d'un pouvoir de charme, d'une faculté d'hypnose, d'un fluide qui opère en dehors du sens qu'ils possèdent. Bon, personne ne parle aussi bien de la langue française. Hein. Quand il décrit la sonorité du français, hein, on ne peut en noyer les accords, elle fonctionne à sec, c'est tellement vrai. Il n'existe pas de langue, j'ai l'impression, où les mots soient aussi nets, aussi séparés. Quand il parle de piano, c'est tout à fait vrai.
Avec des touches, quoi.
C'est ça, c'est une langue à touches. Et je ne connais pas d'autres langues qui évoquent autant le piano que le français.
Et c'est marrant parce qu'à la fois, il dit ça fonctionne à sec, donc on a vraiment l'impression de quelque chose de très net, de très sec, comme la langue de Cocteau l'indique. Et en même temps, il parle d'un pouvoir magique des mots, Amélie Nothomb, donc ça pourrait paraître comme ça, beaucoup plus luminescent, avec beaucoup plus de paillettes. Ce pouvoir magique des mots, vous l'avez, on a parlé de votre rapport à la langue dès la petite enfance, mais vous l'avez encore aujourd'hui ?
Oh, je l'ai plus que jamais.
Ouais.
Plus j'écris, plus je suis sensible aux mots des autres.
Aux mots des autres ou aux mots de la langue française ?
Aux mots de toute façon, ouais. Mais de préférence employés par les autres. Dès que j'emploie un mot, dès que je suis chez moi...
Dans votre langue, vous voulez dire ?
Dans ce que j'écris, je suis plutôt dans le malaise et dans l'obsession que tout ce que je touche devient nauséabond. Donc j'essaye de ne rien penser de ce que j'écris, parce que c'est ce que j'essaye de faire de plus important. Et dès que je l'ai fait, je suis prise de dégoût. Donc je ne suis pas un bon juge par rapport à ce que j'écris. Mais par contre, dans la langue des autres, dans les écrits des autres, je peux avoir des dégoûts, mais surtout des plaisirs, des jouissances, des moments de bonheur fous. Personne ne parle aussi bien du style que Cocteau. Cocteau, pour lui, le style, c'est ce qu'il appelle la ligne. La ligne d'un écrivain, c'est l'ensemble des techniques qu'un écrivain met en œuvre pour ne pas s'effondrer en écrivant. Je trouve que c'est la plus belle définition du style qui soit.
Vous avez les vôtres en conscience ? Ce que vous utilisez ?
Je peux vous dire, ce sont des expédients. Quand j'écris, je suis tout le temps dans ce déséquilibre. En même temps, il faut être dans ce déséquilibre pour que ça ait quelque intérêt et quelque musicalité. Mais ce danger est permanent.
Vous voulez dire celui de l'effondrement ?
Le danger de l'effondrement. Ouais. Ce danger est permanent. Et s'imaginer qu'il suffit d'une correction pour s'en tirer, ça, c'est vraiment croire au Père Noël.
Et de quel effondrement on parle exactement, Amélie Nothomb, encore une fois, pour des personnes qui pourraient être loin de cette pratique ou qui ne comprendraient pas exactement ce qu'on entend par effondrement ?
C'est un effondrement musical qui correspond à un effondrement de l'âme. C'est-à-dire que tout s'effondre en même temps. Donc,
ça sonne plus et ça détruit.
C'est ça. Et de s'imaginer qu'on va pouvoir rafistoler ça avec des rustines, c'est croire au Père Noël. Parfois, par miracle, même en étant tombé, on peut remonter. C'est extrêmement rare.
Si vous voulez bien, c'est peut-être pas très agréable, mais j'aimerais bien qu'on revienne sur ce que vous dites de préférer regarder la langue des autres que la vôtre propre et être prise de dégoût après avoir écrit. C'est intéressant aussi qu'on puisse se demander qu'est-ce que c'est exactement de ce dégoût. Ce dégoût, une fois que c'est écrit, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est ?
C'est une des choses les plus difficiles à affronter quand j'écris. C'est, voilà, au moment de l'écriture, je suis dans cette transe qui me protège.
Plutôt agréable.
Et qui est plutôt agréable, même s'il est difficile à vivre, mais qui est plutôt agréable. Et qui me permet d'avancer, de créer ce que j'appelle mon son. J'essaye de faire mon son comme le groupe Tool qu'on entendait juste avant fait le sien. Et à ce moment-là, ça va. Bon, on est obligé de se relire en cours d'écriture parce que sinon on perd le fil et tout. C'est ce moment-là qui est terrifiant. À ce moment-là, je ne dis pas que je ne perçois plus mon son, mais je perçois surtout l'odeur. J'ai l'impression que ce que j'écris a une odeur et que cette odeur est pestilentielle. Et je suis prise à la gorge par cette odeur. Et donc je me relis vraiment le plus vite possible et en retenant ma respiration pour ne pas succomber à cette odeur.
Presque à ce propos, on va écouter la voix de Rachilde, une autrice que vous avez choisie pour nous dans ce déballage de bibliothèque, Amélie Nothomb. C'est un pseudonyme pour Marguerite Emery. Ici, c'est une archive de 1953, c'est-à-dire juste avant qu'elle ne meure.
Je m'asseyais devant mon bureau et puis je griffonnais. Maintenant, je n'ai jamais aimé beaucoup écrire. Ce n'est pas une passion chez moi.
Alors pourquoi écriviez-vous ?
Pour me perdre. pour ne pas exister. Parce que quand on écrit, on est double. Comprenez? Il y a des jours où on voudrait bien s'oublier, ne plus savoir. Maintenant, vous ne comprenez pas parce que vous êtes une moderne et que de plus, vous n'avez peut-être pas besoin d'oublier.
Moi, je n'ai pas besoin d'oublier seulement, n'est-ce pas? Il y a des jours où j'aime mieux ne pas penser. Maintenant, en réalité, les femmes de lettres sont très précieuses. Je crois qu'être une femme de lettres, c'est absolument la même chose que d'être une marchande de n'importe quoi. Enfin, en réalité, n'est-ce pas, ça ne devrait pas se vendre. Il ne faudrait pas. Alors là, on connaîtrait vraiment les gens de valeur. Parce qu'ils n'en auraient pas.
Beaucoup d'humour, cette femme. Née en 1860, morte en 1953, Rachild, pseudonyme de Marguerite Emery. On va vous entendre un instant parler du livre Les Hors-Natures, qui est apparu en 1897 et qui fait partie de votre choix pour ce déballage de bibliothèque, Amélie Nothomb. Mais quand même, une petite réaction à cette voix, à cette archive.
C'est fascinant. Ouais. C'est fascinant. Bon, là, elle est extrêmement vieille. Elle n'est plus dans son... Bon, c'est très bien ce qu'elle dit, mais je pense qu'elle n'est plus dans son génie. Je dis ça sans aucun jugement. Invitez-moi quand j'aurai 90 ans et nous verrons ce que je raconterai.
Hein. Vous serez pétillante.
Mais enfin, elle dit des choses géniales à côté de ça. Quand même, non? Oui, quand elle dit ça ne devrait pas se vendre, elle a tout à fait raison.
Et puis on verrait la valeur. On verrait la valeur de chacun, chacune, car ça n'aurait plus de valeur.
C'est tout à fait vrai. Là. Ouais. Ça ne devrait pas se vendre. Je suis tout à fait d'accord. Oui.
Pourquoi vous êtes d'accord avec elle sur l'idée que ça ne devrait pas se vendre ce qu'on écrit?
Parce que c'est choquant. J'écris sous l'effet d'une transe. Vendre le produit de sa transe, c'est extrêmement bizarre. Bon, il se trouve que je le fais. Ce doit être parfaitement immoral. Heureusement, je prolonge l'immoralité puisqu'avec mes droits d'auteur, j'achète du champagne. Donc
là, vous cochez toutes les cases.
Je consomme l'immoralité jusqu'au bout.
Mais peut-être que finalement, ça fait boucle et puis c'est OK, non? Je sais pas.
J'espère. Voilà.
Si vous consommez votre immoralité qui plus est dans des bulles, je suis sûre que c'est OK.
Ah, vous me rassurez.
Voilà. Bon, après, je suis vraiment personne pour dire ça, hein, mais ça a l'air de bien se passer. Quand est-ce que vous découvrez l'œuvre de Rachild?
Alors là, je vais peut-être beaucoup vous étonner, je la découvre la semaine dernière, puisque ce livre vient d'être réédité par un certain Gérald Duchemin, qui a une propension à rééditer les femmes de la fin du 19e siècle et du début du 20e. Il a réédité Paris de ma fenêtre de Colette. Et là, il réédite les Hors-Natures de Rachild. Je pense que ce monsieur, que je n'ai jamais rencontré, est un bienfaiteur de l'humanité. C'est lui qui m'offre Rachild, y pense Amélie Nothomb. Je pense que vous devriez lire Rachild, il me l'offre.
Et bien vu.
Et je suis en train de la lire. Je découvre, j'ai pas fini. Je suis possédée. C'est magnifique.
Alors, on va écouter dans votre voix un extrait de « Les Hors-Natures », ce texte paru en 1897.
Devant l'immense glace qui, dressée d'un bout à l'autre de la muraille, paraissait envahir la pièce comme un fleuve silencieux et y noyer à jamais la réalité des choses, Paul-Éric de Fertzen s'habillait. Des réflecteurs d'argent rabattaient sur son beau visage les rayons aveuglants de corolles électriques, toutes blanches, gerbes de lys glorieux, dont la lumière cruellement froide le magnifiait d'une pure apothéose. Svelte, souple, le très jeune homme se contemplait de profil, dans une féline torsion de buste faisant saillir sa hanche, et avec des gestes lents, des étirements calculés de bras, il allait à la rencontre de son double, la tête renversée, les yeux mi-clos et frémissants d'un voluptueux clapement de paupières, se buvant, s'enivrant de lui-même, il élevait, haut, en arrière, sa face pâlie d'orgueil, où les deux taches noires formées par l'ombre des narines, petites palmes de velours funèbre, se posaient sur l'éblouissement de son teint, comme un macabre rappel au mépris du corps.
Ça commence fort. Vous parliez à l'instant de racheter vos fautes morales, de vendre vos, de vendre vos livres par la consommation de champagne. Qu'est-ce que vous aimez dans ce texte-là ?
Alors, bon, je savais que Rachilde était une très grande décadente. Mmh. Et je suis d'accord avec Gérald Duchemin pour trouver que c'est plutôt une très grande gothique. C'est une histoire d'amour entre deux frères.
De demi-frères, je crois,
deux,
non
ouais. Oui, deux demi-frères. Ouais. L'un extrêmement masculin, l'autre extrêmement féminin. Celui dont j'ai lu la description est extrêmement féminin. Et c'est un amour-haine absolu. On est tout le temps dans l'ambiguïté. Ça fait beaucoup penser aussi à des esseintes, vous savez, à rebours, Huysmans, parce qu'on voit ces deux frères vivre de perception. Là, dans la page qui suit celle que je vous ai lue, pour voir s'il aime vraiment les perles, ce beau jeune homme essaye d'en détruire une. Alors, il explore toutes les techniques pour détruire...
Des perles ?
Des vraies perles, des perles d'huîtres. Il essaye toutes les techniques pour détruire une perle et il finit par y arriver. Et une fois que la perle explose en mille fragments...
Il est convaincu de son amour.
Non, il dit « encore un paradis perdu ». Donc, c'est terrible. Il essaye de voir si son paradis
est brisable.
Est brisable et s'il est brisable, alors il ne vaut plus rien.
On va entendre la voix d'un autre auteur qui fait partie de votre choix. C'est celle de Yukio Mishima. Ici, dans un entretien en 1966, il paraît qu'il est dans son lit, vraiment complètement dans son lit. Et justement, le journaliste Jean-Claude Courdi lui parle d'exhibition.
Mishima, on dit que vous êtes un exhibitionniste. Est-ce que cela est vrai ? Et si oui, qu'entendez-vous démontrer par là ?
Forcément, tous les écrivains sont des exhibitionnistes mentaux. Moi, je pratique des exhibitionnismes physiques parce que je suis timide. Dernier, c'est masque, je peux me casser.
Mishima, qui êtes-vous donc ?
Je suis un écrivain japonais très sérieux. Je n'aime pas la littérature. C'est un peu comme Don Juan qui n'aime pas les femmes.
Je n'aime pas la littérature, je suis un peu comme Don Juan qui n'aime pas les femmes, dit Mishima ici dans cette archive de 1966. Yukio Mishima, c'est quelqu'un que vous lisez régulièrement en dehors de ce pavillon d'or que vous allez lire pour nous, Amélie Nothomb.
C'est une de mes grandes figures littéraires. Je le découvre à 13 ans, justement par le pavillon d'or. 13 ans est l'âge où j'ai pris conscience de ma laideur et de lire le pavillon d'or qui est donc l'histoire de ce moine disgracié qui en haine de la beauté détruit ce qu'il y a de plus beau sur terre, à savoir le pavillon d'or, ça m'a terriblement parlé. Plus tard, je retourne au Japon et là, bon, je n'ai jamais réussi à lire Mishima dans le texte, mais j'ai un fiancé japonais qui, lui, me lisait Mishima à haute voix et je dois dire que c'est encore mille fois plus beau en japonais.
Mais que vous compreniez.
Mais le japonais, je l'ai très bien parlé. Simplement, je n'ai jamais pu le lire.
Donc, vous découvrez le pavillon d'or à 13 ans et vous continuez de lire ce grand auteur japonais. Donc, 1925-1970, on entend dire là qu'il est un... Quand on lui demande de se présenter, je suis un écrivain japonais très sérieux, exhibitionniste, critique, car timide.
Oui.
On peut se cacher derrière son exhibition, dit Mishima.
Bon, Mishima était vraiment un personnage très particulier. Je suis assez contente de ne pas l'avoir connu. Je pense qu'il était difficile d'admirer profondément son œuvre tout en le fréquentant. Je pense qu'il avait de gros problèmes de personnalité. Bon, son seppuku, qui peut aujourd'hui susciter une sorte de frémissement d'admiration, mon père l'a vécu quand il était jeune diplomate au Japon. Il a dit que c'était un acte. Quand on en était le contemporain, cet acte ne pouvait inspirer que la répulsion la plus absolue.
Est-ce que vous pouvez préciser de quoi vous parlez ?
Donc, le fameux seppuku que Mishima a fait selon la tradition, le 25 novembre 1970, dans la caserne Nichigaya à Tokyo, dans l'idée de venger le Japon moderne, de lui rendre sa pureté. Bon, avec un grand recul temporel et géographique, on peut peut-être voir à cela quelque héroïsme ou quelque beauté. Mais vécu du Japon même, cet acte a été vécu non seulement par les Japonais, mais aussi par
les personnes qui étaient
les
là,
personnes qui étaient là, comme un acte absolument épouvantable, comme un acte répugnant. Donc, je me souviens que mon père lisait Mishima malgré ça. Il disait « Ce qu'il a fait m'inspire une répulsion sans borne. Ce qu'il était m'inspire un dégoût immense. Mais quand je reviens à son œuvre, c'est tellement beau que je ne peux qu'être possédée. »
Et vous, vous pouvez faire cet aller-retour à Amélie Nothomb, connaissant par exemple des aspects peu reluisants de la biographie d'autrice ou d'auteur. Vous pouvez tout à fait lire les textes les détachant, je veux dire.
Oui. Ouais. Alors, en même temps, je suis heureuse de ne pas être allée trop près. Ouais. Par exemple, j'adule Monterland, j'ai très bien connu un vieux monsieur qui l'avait très bien connu.
Et vous vous dites pareil.
Monsieur m'a dit, j'étais comme vous, j'admirais Monterland. Et puis je l'ai rencontré et je n'ai plus jamais pu le lire.
Ouais.
Donc je conçois qu'une telle réaction soit possible. Et mm-hmm. Je suis très heureuse de ne pas avoir connu Monterland et de ne pas avoir connu Mishima.
Alors on vous écoute dans un extrait du Pavillon d'or, traduction française évidemment.
Les soirs de mai, au retour de la classe, dans la maison de mon oncle, j'apercevais, de la pièce du premier étage où je faisais mes devoirs, en face de moi les collines. Au rayon du couchant, leurs pentes couvertes de feuilles nouvelles semblaient un paravent d'or déployé au milieu de la plaine. Et ce que je voyais, moi, c'était le pavillon d'or. Bien souvent, sur des photographies, sur des livres de classe, j'avais vu le vrai pavillon d'or. Pourtant, c'est l'image du temple d'or des récits de mon père qui, dans mon cœur, avait supplanté tout autre. Mon père, sans doute, ne m'avait jamais dit du vrai pavillon d'or que, par exemple, il étincela de 1000 dorures. Mais à l'entendre, il n'existait nulle chose au monde qui l'égalât en beauté. Et le pavillon d'or, qui se dessinait dans ma pensée, à la seule vue des lettres, à la seule résonance du mot, avait quelque chose de fabuleux. Voyais-je au loin miroiter des rizières ? C'est l'ombre d'or du temple invisible, me disais-je. Le col de Yoshizaka, où passe la frontière entre la préfecture de Fukui et notre département de Kyoto, se trouve en plein est. Le soleil monte de par là. Bien que Kyoto elle-même soit à l'opposé, c'est le pavillon d'or que, dans l'échancrure des montagnes, je voyais surgir du soleil levant et s'élancer haut dans le ciel. Ainsi, le pavillon d'or m'apparaissait-il partout. Il tirait même du fait que l'œil ne le voyait réellement atteindre une grande ressemblance avec la mer qui baigne ses bords.
C'est un roman qui s'inspire d'un fait divers réel, comme on dit aujourd'hui, l'incendie d'un temple, le temple du Kinkakuji de Kyoto en 1950 par un jeune moine, justement peut-être motivé par son rapport à la beauté.
Oui.
En tout cas, c'est ce qu'en fait Mishima. La beauté, c'est aussi quelque chose qui arrive parfois dans vos romans, Amélie Nothomb, là en l'occurrence, certains visages de femmes dans votre livre Tant mieux, avec quelque chose d'ambivalent dans la manière dont, en l'occurrence là, votre narratrice ou la petite fille regarde ça. Vous avez quoi comme relation avec la beauté des êtres ou des paysages ou la beauté tout entière,
C'est une obsession. Ouais. La beauté sous toutes ses formes, qu'elle soit humaine, musicale, esthétique.
Ouais.
M'obsède et elle l'objet d'une recherche.
Mais comme par exemple, c'est-à-dire, c'est une sorte de quête ?
C'est une quête, aussi bien chez mes personnages, de la part de mes personnages, que moi écrivant. J'essaye de produire un son qui soit de l'ordre de la beauté. Mmh. C'est très expérimental, évidemment. Mmh. Mais je vois ce qui me paraît un beau son et j'essaye de le reproduire par les moyens du langage.
Mais par exemple, ça guide aussi ce sur quoi vous posez votre regard, ça guide, je ne sais pas, les lieux dans lesquels vous vous promenez, les gens avec qui vous êtes. Vous avez un rapport à la beauté dans votre existence.
J'ai une dépendance à la beauté. Mm. J'ai besoin d'être entourée d'êtres que je trouve beaux.
D'objets aussi.
D'objets que je trouve beaux, de musique que je trouve belle. J'ai peut-être très mauvais goût, mais ce sont
peu importe, enfin, en tout cas, voilà. C'est votre rapport à la beauté, ouais.
Oui.
C'est une dépendance à la beauté.
C'est une dépendance à la beauté.
C'est vital.
C'est vital. J'imagine que le fait d'avoir grandi au Japon, et pas dans n'importe quel Japon, dans le Japon du Sud, dans justement le Japon dont parle Mishima, mais aussi entourée... J'étais dans une vieille maison japonaise traditionnelle. Ma mère était une femme d'une extrême beauté.
Vous le racontez dans Tant mieux.
Oui.
Il y a aussi quelque chose de cette beauté-là, 42 ans.
C'est ça.
C'est presque ravageur.
C'est ravageur, une telle beauté. Et avoir grandi au milieu de toute cette beauté, m'en a inspiré vraiment... Je suis dépendante, je suis droguée à la beauté. Et j'espérais en faire partie. Bon, ça n'a pas marché. Alors j'en fais partie d'autres moyens. C'est-à-dire que j'essaye de créer de la beauté par mes livres.
Le pavillon d'or dont il est question dans l'extrait que vous avez lu pour nous de Mishima, c'est aussi l'idée qu'il y a quelque chose qui se superpose toujours, si je comprends bien, quelque chose qui se superpose toujours à ce que l'on regarde, qui est ce pavillon d'or. C'est comme une sorte de fantôme de la beauté.
C'est comme un fantôme de la beauté. Et ça, c'est très fou ce qu'il dit, parce que ce qu'il raconte, je ne l'ai pas vécu pour le pavillon d'or, je l'ai vécu pour le mont Fuji. Le mont Fuji est comme un ectoplasme. Où que vous alliez au Japon, vous voyez le mont Fuji. On le voit d'anormalement loin.
Concrètement, vous voulez dire pour de vrai ?
Concrètement, est anormalement présent. Le nombre d'endroits du Japon d'où on voit le mont Fuji, ça donne l'impression qu'on a des hallucinations. Or, le mont Fuji, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus beau au monde. Je le trouve encore plus beau que le pavillon d'or, pour mon goût. Et donc, pour moi, chaque fois que Mishima parle du pavillon d'or, je l'identifie au mont Fuji. Sauf que ce que je vis avec le mont Fuji, c'est une très grande histoire d'amour. Je n'ai jamais eu le désir de le détruire.
Tout à l'heure, vous avez dit que la découverte de Marguerite Yourcenar aux environs de 18 ans, Amélie Nothomb, vous a fait vous réconcilier avec le drame qu'était l'horizon de la féminité jusqu'à cet âge-là. On l'écoute dans une archive de 1979. Elle est au micro de Jacques Chancel. Et après, si vous le voulez bien, on vous écoute, vous, dans un extrait de L'œuvre noire.
Dans L'œuvre noire, il y a cette phrase « Ne pas accepter la solitude, c'est en général s'appuyer lourdement sur les autres ». Or, ceux qui supportent la solitude sont ceux sur qui on finit par s'appuyer.
Est-ce que j'ai écrit cette phrase ?
Oui, puis elle est
vous
belle.
Vous êtes sûr que vous ne l'avez pas prise à quelqu'un d'autre ?
Non, pas du tout.
Parce qu'il me semble que je l'entends pour la première fois.
Ouais. Alors, je vous la redis.
Notez bien qu'au fond, je suis d'accord.
Parce que c'est beau quand même. Ne pas accepter la solitude, c'est en général s'appuyer lourdement sur les autres.
J'ai peut-être dit ça même dans une entrevue. Mais je crois que c'est vrai. Je crois que c'est un des très, très grands dangers des affections humaines telles qu'on les comprend généralement. C'est que c'est une manière de s'appuyer sur les autres, de tout son poids. Les parents s'appuyant sur leurs enfants, les enfants plus rarement s'appuyant sur les parents, les amoureux s'appuyant l'un sur l'autre, jusqu'au jour où ils deviennent littéralement insupportables.
C'est-à-dire la grande facilité, ne plus se sentir responsable de soi-même.
Ne plus se sentir seul, ne plus...
L'immense rumeur de la vie en fuite continuait. Une fontaine à Eyoub, le ruissellement d'une source sortant de terre à Vaucluse en Languedoc... Un torrent entre Östersund et Frösön se pensèrent en lui sans qu'il eût besoin de se rappeler leur nom. Puis, parmi tout ce bruit, il perçut un râle. Il respirait par grandes et bruyantes aspirations superficielles qui n'emplissaient plus sa poitrine. Quelqu'un qui n'était plus tout à fait lui, mais semblait placé un peu en retrait sur sa gauche, considérait avec indifférence ses convulsions d'agonie. Ainsi respire un coureur épuisé qui atteint au but. La nuit était tombée sans qu'il pût savoir si c'était en lui ou dans la chambre. Tout était nuit. La nuit aussi bougeait. Les ténèbres s'écartaient pour faire place à d'autres, abîme sur abîme, épaisseur sombre sur épaisseur sombre. Mais ce noir différent de celui qu'on voit par les yeux frémissait de couleurs issues, pour ainsi dire, de ce qu'était leur absence. Le noir tournait au vert livide, puis au blanc pur. Le blanc pâle se transmutait en or rouge, sans que cessât pourtant l'originelle noirceur, tout comme les feux des astres et l'aurore boréale tressaillent dans ce qui est quand même la nuit noire. Un instant qui lui sembla éternel, un globe écarlate palpitant en lui, ou en dehors de lui, saigna sur la mer, comme le soleil d'été dans les régions polaires, la sphère éclatante parut hésiter, prête à descendre d'un degré vers le nadir, puis d'un sursaut imperceptible remonta vers le zénith, se résorba enfin dans un jour aveuglant qui était en même temps la nuit. Il ne voyait plus, mais les bruits extérieurs l'atteignaient encore. Comme naguère à Saint-Cosme, des pas précipités résonnèrent le long du couloir. C'était le porte-clés qui venait de remarquer sur le sol une flaque noirâtre. Un moment plus tôt, une terreur eût saisi l'agonisant à l'idée d'être repris et forcé à vivre et à mourir quelques heures de plus. Mais toute angoisse avait cessé. Il était libre. Cet homme qui venait à lui ne pouvait être qu'un ami. Il fit ou crut faire un effort pour se lever, sans bien savoir s'il était secouru ou si au contraire il portait secours. Le grincement des clés tournées et des verrous repoussés ne fut plus pour lui qu'un bruit suraigu de porte qui s'ouvre. Et c'est aussi loin qu'on peut aller dans la fin de Zénon.
C'est donc la fin de l'œuvre Au Noir qui suit le parcours de Zénon, ce personnage de médecin, philosophe, alchimiste du XVIe siècle dans une Europe qui est déchirée par les guerres de religion. Ce livre paraît en 1968. Vous la découvrez quand, cette œuvre, l'œuvre Au Noir, Amélie Nothomb ?
L'œuvre Au Noir, je la découvre à 20 ans. En lisant Yourcenar, je commence par Mémoire d'Adrien, que je lis à 19 ans et qui est un éblouissement, mais hallucinant.
Qu'est-ce qui vous plaît dans ce livre-là ?
C'est que c'est un empereur qui parle et on sent que c'est Yourcenar qui parle et Yourcenar.
Les deux en même temps, quoi.
Yourcenar est un empereur romain. L'identification est absolue. C'est du marbre qui parle. C'est extraordinaire.
Donc vous découvrez Yourcenar, c'est un immense choc et un an plus tard, vous lisez l'œuvre noire.
Oui. Et aussi bien dans l'œuvre noire que dans Mémoire d'Adrien, une obsession pour la mort, mais très bien vécue. Pas du tout comme quelque chose de morbide. Là, je viens de décrire...
Oui, il n'y a plus d'angoisse, c'est libéré.
Je décris un trépas, et ce trépas est vécu sans aucune angoisse, avec une véritable curiosité. Et ça, c'est une caractéristique de Yourcenar. C'est aussi dans Mémoire d'Adrien, je veux entrer dans la mort les yeux ouverts. Et c'est là que je me dis, mais elle a tout à fait raison. Mourir doit être terriblement intéressant. Ce qui ne signifie pas évidemment qu'il faille s'y précipiter, ça viendra de toute façon. Donc,
il paraît, ouais.
Autant explorer la vie avant d'explorer la mort. Mais au moins, perdons cette peur, n'ayons plus peur de mourir. Mourir peut faire partie des choses fascinantes de la vie.
Ce qui est étonnant, c'est que Marguerite Yourcenar, elle perd sa mère. Elle ne connaît pas sa mère, elle perd sa mère à la naissance. Donc, d'une certaine manière, étonnant ou pas, la mort, c'est une donnée de la vie pour elle, peut-être encore plus que pour tout le monde, en tout cas.
Probablement.
C'est dès le départ, quoi. C'est
probablement.
C'est là de manière extraordinairement tangible.
Tangible et aussi c'est son attitude. Chaque fois qu'on l'interroge, et Dieu sait si on l'a interrogé sur le fait qu'elle n'a pas connu sa mère, on essaie de lui faire avouer qu'il y a eu une souffrance liée au fait qu'elle n'a pas eu de mère. Et Yourcenar répond toujours impérialement et sans cruauté que non, pas du tout. Qu'elle n'a jamais souffert de ne pas avoir de mère, comme si elle assumait très très bien d'être entrée dans la vie par la mort. Ça lui va très bien.
En tout cas, c'est le réel. Vous qui disiez qu'on ne peut pas vivre en dehors du réel, c'est le réel.
C'est ça, c'est le réel.
C'est sa donnée.
C'est sa donnée réelle et elle accepte totalement cette réalité. Elle n'est jamais dans la déploration. Je pense que c'est grâce ou à cause de Yourcenar que je suis allergique à la déploration. Et Dieu sait que la déploration est fréquente dans la conversation des gens. Dès que les gens se mettent à parler dans la déploration, quelque chose en moi est en allergie.
Oui, alors en même temps, vous parlez dans votre livre, tant mieux, que vous avez été comme éduqué contre la déploration ou avec l'idée qu'on peut faire sans la déploration.
Alors, oui, mais ça, c'est tout à fait autre chose. C'est le point de vue hyper positif, presque maladivement positif de ma mère. C'est l'autre extrême, mais on est d'accord, ça conduit au même résultat.
On va vers votre dernier choix, c'est une lettre d'amour que Rainer Maria Rilke adresse à Lou Andrea Salomé. Est-ce que vous voulez nous dire un mot ou vous voulez rentrer directement dans cette lettre, Amélie Nothomb ?
Alors, rien n'est plus grand dans la vie que d'écrire des lettres, et surtout que d'écrire des lettres d'amour. Et tant qu'à écrire des lettres, et surtout tant qu'à écrire des lettres d'amour, Rilke, c'est le maître. Personne n'a écrit autant de lettres que Rilke, et surtout autant de lettres sublimes, qu'elles soient d'amour ou qu'elles ne soient pas d'amour, les lettres de Rilke, mais ce ne sont que des morceaux de bravoure. Je dois vous dire, je n'ai même pas choisi cette lettre. J'en ai pris une au hasard, sachant que de toute façon, ça ferait l'affaire.
En tout cas, c'est pour Lou Andrea Salomé.
Je pense à toi, à chaque instant de la journée, et mes souvenirs, mon appréhension, te suivent où que tu sois. Chaque souffle de vent sur ton front t'embrasse de mes lèvres, et chacun de tes rêves te parle avec ma voix. Tu le sais, mon amour pour toi est comme un manteau qui te protège et te réchauffe. Je parle souvent de toi et de tout avec toi. Et la luminosité de ton sourire s'amplifie, s'évade dans tout ton visage, l'inonde, le transfigure. Tu sais, s'il existait un portrait de toi qui te représente vraiment, comme tu es, tous les jeunes gens qui passeraient devant lui se mettraient à genoux. Et je me mêlerais à eux et je me mettrais à genoux avec eux. Toi, mon amour, tu dois revenir. J'étais si triste quand il n'y a pas eu de réponse à mon « bonne nuit ». En m'endormant, je l'ai répété à haute voix plusieurs fois, « attendant, attendant ». J'ai tant pensé à toi pendant le voyage, puis ici, j'ai tant désiré que tu reviennes en bonne santé de la montagne. Entre toutes mes pensées, en fait, celle qui va vers toi est la seule dans laquelle je trouve un repos. Parfois, je m'étends en elle de tout mon long, je m'y endors et je m'y réveille.
Ils s'écrivent pendant presque 30 ans, Lou Andrea Salomé et Rainer Maria Rilke. Tout à l'heure, vous disiez, alors probablement c'est d'une autre nature, mais que vous auriez pu faire profession de correspondance. Qu'est-ce qui vous plaît dans cet acte-là, Amélie Nothomb ?
Écrire une lettre, c'est encore tout à fait autre chose qu'écrire. Écrire, au sens absolu du verbe, c'est s'adresser on ne sait pas à qui, peut-être à personne. Écrire une lettre, c'est s'adresser suprêmement à quelqu'un. C'est un écrit qui est totalement motivé par l'existence de l'autre et d'un autre bien particulier. C'est, littéralement, c'est une injonction à la muse. Et j'ai commencé à être épistolière bien avant d'être écrivain, à supposer que je sois écrivain aujourd'hui, puisque j'ai reçu un ordre de mes parents, à l'âge de 6 ans, d'écrire chaque semaine une lettre, une page A4 écrite des deux côtés, à mon grand-père resté en Belgique, que je n'avais jamais rencontré. Mais ça me paraissait le bagne.
Je m'étonne.
Ça me paraissait le bagne. Alors j'écrivais grand, hein, pour que la page soit... Mais malgré tout, je n'avais absolument rien à lui dire. Et je disais à ma mère, mais qu'est-ce que tu veux que je lui dise ? Il ne m'arrive rien. Je dis, oui. Et ma mère me disait, mais le rien qui t'arrive, dis-le lui, ou dis-lui que tu penses à lui. Je dis, mais comment veux-tu que je pense à lui ? Je ne le connais pas. Elle me dit, mais justement, c'est ça qui est intéressant. C'est devenu très intéressant puisque très vite, mon grand-père m'a répondu. A commencé une très longue correspondance avec quelqu'un que je ne connaissais pas. Et finalement, mon grand-père écrivait des commentaires de mon commentaire et moi, je commentais le commentaire du commentaire. Ça a certainement modifié très profondément ma façon d'être et ma façon d'écrire, de devenir sitôt une épistolière.
Merci beaucoup, Amélie Nothomb, d'avoir ouvert votre bibliothèque au Book Club de France Culture.
Merci à vous.
When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be, 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 whisper words of wisdom, let it be.
Au son aujourd'hui, c'était Dali Yaha à la réalisation, Françoise Le Floch. Vous êtes Amélie Nothomb qui se retourne pour les applaudir. Bah oui, c'est vrai. Ça vous a touché ce choix ?
Énormément. Ouais. Ça m'a énormément touchée. J'ai vécu un très très beau moment. Je vous remercie.
Merci à vous. On peut réécouter tous les portraits de bibliothèque sur France Culture à la page du Book Club et retrouver toutes les références des textes que vous avez choisis pour nous. Amélie Nothomb, un grand merci à toute l'équipe du Book Club et particulièrement aujourd'hui à Garance Roubieux et Jeanne Aléos.